Mondial Sport sur RFI.
Bonsoir à tous, vous écoutez RFI et vous avez bien raison, surtout si vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Mondial Sport consacré donc exclusivement ou presque à la Coupe du Monde, car ça ne vous aura pas échappé. Elle a démarré en Russie et elle s'est déjà passée beaucoup de choses, notamment ce samedi. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu sur RFI. Le Nigeria s'est incliné 2-0 face à la Croatie pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde. On retrouve tout de suite Hugo Moissonnier. Rebonsoir Hugo, on se retrouve une demi-heure plus tard. Vous avez eu un peu de temps pour synthétiser les enseignements de cette partie avec donc une défaite assez logique pour le Nigeria.
Oui, on n'a pas vu une très grande Croatie, mais on n'a clairement pas vu un très grand Nigeria. Il a manqué beaucoup de choses, il a manqué de l'expérience. On sait, elle est jeune et elle manque de vécu, cette équipe des Super Eagles. Il a manqué aussi un peu de talent. Forcément, en face, vous avez Modric, le métronome du Real, vous avez Rakitic, le métronome du Barça, l'un des métronomes du Barça, vous avez Mandžukić, ancien du Bayern, actuel attaquant de la Juventus Turin, vous avez des joueurs qui gagnent des Coupes d'Europe, qui disputent des finales de Coupes d'Europe. Quand un joueur entre, il joue à l'Inter Milan, il joue à Schalke, il joue au Real Madrid. Vous n'avez pas ça du côté du Nigeria, ce qui explique en partie une première période pas raté, mais quand même un petit peu de la part des hommes de Gernot Rohr. Aucun tir cadré, aucune action véritablement dangereuse. Un plan de jeu assez conservateur tout de même, qui consistait quand même à être bien en place. Mais quand le bloc cède, c'est là que ça se complique. Si vous n'encaissez pas de but, c'est pas grave. Mais si le bloc cède, là, c'est compliqué. Et il a cédé à la 32e minute, ce bloc nigérian, sur un corner de Modric. Deux joueurs croates, dont Mandžukić, touche le ballon et puis Etebo prolonge dans son propre filet. 1-0 pour la Croatie. Timide réaction des Nigérians en début de seconde période. Ils font ils offrent un meilleur visage, ils montrent un meilleur visage, mais à la 70e minute, Trostekong, ceinture, Mandžukić encore lui dans la surface, doublé pour la Croatie, deuxième but plutôt pour la Croatie, signé Modric sur pénalty. Et à partir de là, les Nigérians n'ont plus vraiment montré de velléité offensive, ou n'ont plus réussi à engager des actions tranchantes, et la partie était déjà joué à partir de la 70e minute. On sentait que l'espoir s'était envolé côté nigérian.
Alors voilà, donc 2-0, donc assez logiquement, on l'a compris. Hugo, on attendait quand même beaucoup de certains joueurs nigérians. En tout cas, on espérait que offensivement, certains allaient pouvoir s'illustrer. Ça a été tout le contraire.
Surtout un joueur. Selon moi, Alex Iwobi, l'attaquant d'Arsenal, il fait partie de cette jeune génération nigériane. C'est un jeune joueur talentueux, donc on attendait beaucoup de sa part. Il n'avait pas été mauvais durant les matchs de préparation. Il avait même été très bon face à l'Angleterre, dans ce qui était un véritable test. Donc on attendait beaucoup de lui, le neveu de JJ Okocha. Et malheureusement, Iwobi n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Alors il faut dire que le plan de jeu n'a pas forcément aidé. Lui et Moses, les deux ailiers nigérians, ils ont beaucoup défendu en attaque. En revanche, ils ont laissé le pauvre Ogun Ighalo se débrouiller tout seul. Et globalement, ils ont peut-être été victimes d'un plan de jeu, encore une fois, un peu conservateur, mis en place par Gernot Rohr. Beaucoup de longs ballons pour un Ighalo devant, trop isolé. Forcément, ça manque de tranchant, ça manque d'action franche et ça manque de but à l'arrivée.
Et voilà, à l'arrivée, cette défaite. Hugo, est-ce que malgré tout, ce Nigeria a montré quelque chose de positif, et est-ce qu'on peut espérer mieux de lui durant les deux derniers matchs de poule face à l'Argentine et l'Islande pour espérer donc une qualification pour les huitièmes de finale?
Alors, ce qui est bien au moins, c'est que les cadres, ils sont au rendez-vous. Obi Mikel, le capitaine, il a été au rendez-vous, il a éclairé le jeu des Super Eagles. Le milieu de terrain n'a pas été mauvais non plus. Didi était beau, malgré ce but inscrit contre son camp. Ils ont été plutôt efficaces alors qu'il y avait du répondant en face. Et puis Moses, la vedette, le joueur de Chelsea également, ne s'est pas caché. Beaucoup de travail défensif. Malheureusement, il va falloir peut-être mettre une tactique un peu plus ambitieuse en place. Ce n'est pas pour charger Gernot Rohr, qu'on apprécie beaucoup à RFI, mais peut-être qu'il va falloir trouver un système qui permette à ces joueurs offensifs de s'exprimer davantage. Ça ne va pas être simple face à une équipe d'Islande très accrocheuse, qui a accroché l'Argentine Argentine tout à l'heure. Ce sera vendredi à Volgograd. Et puis derrière, il faudra peut-être réaliser un miracle contre l'Argentine, le meilleur ennemi du Nigeria dans cette Coupe du Monde. Ce sera à Saint-Pétersbourg le 26 juin.
Et voilà, on suivra ça encore une fois avec vous, Hugo Moissonnier. Merci donc pour toutes ces précisions sur ce match face à la Croatie. Bonne soirée, Hugo, et puis à bientôt sur RFI. Alors on en parlait à l'instant, l'Islande justement qui a sans doute créé la première surprise de cette Coupe du Monde en arrachant le match nul un partout face à l'Argentine. Et pourtant Kun Agüero avait ouvert le score assez rapidement avec un bel enchaînement à la 19e minute, le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Mais signe de la fébrilité des Argentins, Alfred Finnbogason a égalisé dans la foulée au bout d'une action un petit peu confuse. Résultat un partout, très belle opération pour l'Islande qui confirme son joli parcours du précédent Euro où elle avait atteint les quarts de finale. En revanche, évidemment, on est très déçu côté argentin. L'albicéleste qui a manqué d'inspiration à l'image de Lionel Messi par exemple, qui a notamment raté un penalty. Déception donc, mais le capitaine argentin veut maintenant se projeter sur le prochain match déjà très très important face à la Croatie.
Y es complicado, de hecho no querían jugar tampoco, nos esperaban muy atrás, no había espacio para...
C'était compliqué, ils étaient regroupés derrière, il n'y avait pas d'espace pour passer. Nous avons beaucoup tenté, une circulation rapide, des changements de côté, mais ils défendaient bien et c'était difficile. Nous sommes amers parce que nous voulions démarrer avec 3 points et nous le méritions. Comme on sait, avec une victoire, c'est toujours important. Mais maintenant, il faut penser à la Croatie. Cela dit, nous gardons espoir et puis nous méritions de gagner ce match et il faudra être encore meilleur. Ce n'était que le premier match. On voit que c'est une Coupe du Monde très équilibrée. La plupart des matchs sont très serrés et il faudra aller de l'avant.
Lionel Messi au micro de Carlos Pizarro. Lionel Messi déjà tourné donc vers cette rencontre de jeudi Argentine-Croatie. L'autre match de ce groupe D aura lieu vendredi entre le Nigeria et l'Islande. Et puis de son côté, le Maroc avait fondé beaucoup, beaucoup d'espoir sur son premier match de Coupe du Monde. Le premier depuis 20 ans, les Marocains qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde depuis 1998. Et vendredi, ce match face à l'Iran devait donc donner le ton de la compétition et le mettre sur orbite pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Et bien ça s'est mal passé pour les Lions de l'Atlas. Le pire scénario possible avec une défaite 1-0 dans les tout derniers instants. Une fin de match que les Marocains ont bien dû mal à digérer, Christophe Jousset.
Les Marocains sont passés du rêve au cauchemar. Revenir en Coupe du Monde 20 ans après la dernière participation, c'était un rêve. Le mot revenait jeudi dans les propos d'Hervé Renard et Mehdi Benassia en conférence de presse. 24 heures plus tard, le grand rendez-vous a tourné au cauchemar. Non seulement le Maroc n'a pas battu un adversaire auquel il était supérieur, mais il a perdu. Le premier tort des Lions de l'Atlas, ne pas avoir réussi à transformer les occasions d'une entame de match par ailleurs épatante. Le grand regret de Mbarek Boussoufa.
Si tu regardes le match, on était avec une attitude positive. On voulait jouer, on voulait marquer, on voulait faire la différence. Et je crois, avec tous les respects par les reins, et je crois sur le terrain, ça se voyait qu'on voulait plus. Mais malheureusement, on n'était peut-être pas top dans la finition. C'était difficile parce que les Iraniens y attendaient.
Attentistes les Iraniens, bien regroupés en défense avec l'idée de jouer sur leurs points forts, les contres et les coups de pied arrêtés, mais surtout l'idée de suivre le plan conçu par Carlos Queiroz. Le sélectionneur portugais de la team Meli voulait frustrer les fins techniciens du camp d'en face, les harceler jusqu'à provoquer leur collapse, comme il dit, leur effondrement. Un plan que Queiroz a détaillé et assumé froidement après match.
La stratégie d'Iran a été créée. Collapse mental, de frustration et d'irritation les joueurs de Maroc, qu'ils ont perdu le contrôle du match quand ils ont commencé à être nerveux et avec beaucoup d'irritation, collapse mental. qu'il a commencé avant le collapse physique que l'équipe de Maroc a démontré au final du match.
Objectif atteint, après 20 bonnes premières minutes, les Marocains ont commencé à décliner et certains de leurs joueurs majeurs sont descendus bien en dessous de leur meilleur niveau. Hakim Ziyech, Mbarek Boussoufa, Mehdi Benassia, le capitaine aussi, qui ne se présentera pas en zone mixte après le match. Les choix d'Hervé Renard font débat. Il a mis El Khaabi en pointe pour sa 5e sélection, sans succès. Il a fait entrer Sofiane Amrabat et Aziz Bouadouz. Le premier a provoqué le coup franc sur lequel le second a marqué contre son camp. Le sélectionneur français a fait face sans trop insister sur la philosophie de son adversaire du jour.
C'était un football un peu spécial à jouer, mais c'est toujours le vainqueur qui a raison. Après, je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Sur l'action qui amène le but, on a un ballon dans la surface à jouer, on fait faute. Ensuite, il y a coup franc, le ballon part sur le côté droit de notre défense, on fait une deuxième faute sur le côté, et puis après on marque contre notre camp, donc on s'est fait crucifier. C'est de ma responsabilité aussi.
Un 0-0 n'aurait pas été un très bon résultat pour le Maroc. La défaite est désastreuse, d'autant qu'elle survient à la 95e et dernière minute sur une tête plongeante dans son propre but de l'attaquant Aziz Bouadouz, qui est venu courageusement répondre à tous les journalistes en zone mixte.
Quand je suis entré en jeu, j'étais très heureux. J'ai l'habitude de donner le meilleur et ce soir, le moment que je vis, n'est pas facile. J'espère que les gens, tous les supporters au Maroc, en Allemagne, en France, tout le monde, je peux seulement dire que je suis désolé pour ce moment. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ça fait partie du football. Je n'ai pas eu de chance.
Une fois rentrés à leur camp de base dans la nuit, les Marocains ont sans doute vu les images du triplé de Cristiano Ronaldo contre l'Espagne. Le Portugal est leur prochain adversaire, mercredi, à Moscou. Ils l'affronteront sans Nordine Amrabat, l'un de leurs meilleurs joueurs. Victime d'une commotion cérébrale hier, sa Coupe du Monde est peut-être déjà terminée. Christophe Jousset, Saint-Pétersbourg, RFI.
Et Christophe, je vous sais en parler justement. Les trois buts de Cristiano Ronaldo qui ont donc été inscrits lors de ce match nul, 3-3 entre le Portugal et l'Espagne. La Roja, je vous le rappelle, qui a changé d'entraîneur il y a quelques jours après le départ de Julen Lopetegui et son remplacement par Fernando Hierro. Eh bien, dans ce groupe B, pour l'instant, c'est donc l'Iran qui est en tête à la surprise générale avec 3 points devant l'Espagne et le Portugal, 1 point chacun. Le Maroc est donc bon dernier avec 0 point. Mauvais départ donc pour le Maroc, on l'a dit. Mauvais départ aussi pour l'Égypte, les Pharaons qui se sont inclinés 1-0 face à l'Uruguay pour leur début dans cette Coupe du Monde. Scénario cruel là aussi, puisqu'ils ont encaissé ce but à la 89e minute de la part du défenseur José María Jiménez. Bonsoir Frédéric Suto.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors, vous avez commenté ce match pour RFI. L'Égypte a donc été solide, mais ça a duré jusqu'à la 89e minute.
Oui, ils ont fini par craquer effectivement les Égyptiens alors qu'ils tenaient le 0-0 face à cette redoutable sélection uruguayenne emmenée par son duo d'attaque Luis Suarez et Edinson Cavani. Les deux hommes qui ont eu des occasions, Luis Suarez notamment, l'attaquant de Barcelone qui a buté plusieurs fois sur un excellent Mohamed El Shenawy, le portier égyptien. Héros du match, El Shenawy, jusqu'à cette 89e minute. Il a fait des prouesses. Il a été sauvé aussi, il est vrai, quelques minutes avant le but, par son poteau sur un coup franc d'Edison Cavani. L'Égypte tenait le 0-0, mais il y a eu ce coup de pied arrêté, un coup franc sur la droite, mini corner. Et José Jiménez, le défenseur de l'Atlético de Madrid, qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Une défaite 1-0 pour l'Égypte qui dispute ici en Russie son premier mondial depuis 1990, une Coupe du Monde de 90 où les pharaons n'avaient pas démérité. 2-0 face aux Pays-Bas et l'Irlande, une courte défaite face à l'Angleterre. À l'époque, les Égyptiens n'avaient pas passé le premier tour malgré ces 2 matchs nuls. Eh bien, ce sera encore difficile. Cette fois, en 2018, après ce revers inaugural, l'Égypte, pour son 2e match, Cédric, va affronter la Russie mardi à Saint-Pétersbourg. Des Russes en tête du groupe après leur victoire euphorique et libératrice face à l'Arabie Saoudite en match d'ouverture. Les Égyptiens n'ont déjà plus le droit de perdre s'ils veulent conserver une chance de se qualifier pour les 8e de finale.
Alors Frédéric, un mot tout de même sur le grand absent côté égyptien de cette rencontre. La star de Liverpool, Mohamed Salah, est resté sur le banc face à l'Uruguay.
Il n'était pas titulaire, Mohamed Salah, et il a cruellement manqué à son équipe. Mohamed Salah blessé à l'épaule le 26 mai dernier en finale de la Ligue des Champions. Il n'a repris l'entraînement collectif que mercredi, deux jours seulement avant le match. On le sait, sur le terrain, son rôle est primordial. Il a inscrit 5 buts lors de la phase des éliminatoires Afrique. Il a porté son équipe jusqu'à cette Coupe du Monde. Et hier, notamment en première période face aux Uruguayens, les Égyptiens ont eu quelques bons ballons de contre à exploiter, mais cela manquait de justesse technique. Sans faire injure à Hassan Trezeguet, à Marwan Morsen ou encore à Amwarda, eh bien, ils n'ont pas la classe, non, ils n'ont pas la classe de celui qui a marqué 44 buts cette saison avec Liverpool.
Mais c'est pas mal, forcément. Mais alors, on peut se demander, Frédéric, Mohamed Salah, on l'attendait beaucoup face à l'Uruguay, mais s'il n'a pas joué ce match, c'est qu'il doit toujours souffrir de son épaule. Alors, est-ce qu'on sait où il en est exactement? Sera-t-il remis pour jouer face à la Russie et l'Arabie Saoudite?
On peut commencer à en douter, car ce qui est surprenant, c'est que jeudi, à la veille du match contre l'Uruguay à Ekaterinbourg, Hector Cooper, le sélectionneur argentin des Pharaons, avait surpris tout le monde en laissant comprendre que Mohamed Salah était apte à jouer, qu'il allait l'aligner face à l'Uruguay, qu'il avait récupéré de sa blessure plus vite que prévu. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi l'a-t-il laissé finalement sur le banc? Il n'est même pas entré en cours de jeu. A-t-il bluffé le sélectionneur? Non, nous dit-il, il a juste écouté les médecins. Hector Cooper.
La décision, simple, la tient le staff.
Pour moi, le dernier mot revient toujours au staff technique et aux médecins, et plus encore dans un cas comme celui de Salah. La veille du match, nous avions une assez grande certitude avant l'entraînement. Mais à l'issue de celui-ci, nous avons procédé à des études approfondies et des interrogations sont apparues sur ce qui pourrait arriver en cas de coup ou encore dans un cas similaire à celui qui fut à l'origine de sa blessure. Et le pourcentage de risque d'une nouvelle blessure était assez élevé. Nous avons donc préféré ne pas courir ce risque tout en sachant avec certitude que nous pourrons compter sur lui contre la Russie et l'Arabie Saoudite.
Hector Cooper et Mohamed Salah, que toute l'Égypte espère sur la pelouse de Saint-Pétersbourg. Mardi, nous y serons. Ce match de l'Égypte face à la Russie, le pays organisateur.
Eh bien, merci Frédéric Suto et bonne fin de soirée. On vous retrouvera, vous et les Égyptiens, donc mardi. Ce sera face à la Russie. Il y aura peut-être Mohamed Salah, mais en tout cas, ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RFI. À noter que les deux dernières équipes africaines engagées, la Tunisie et le Sénégal, n'ont pas encore joué dans cette Coupe du Monde. Les Aigles de Carthage affrontent l'Angleterre lundi, match du groupe G. Et puis les hommes d'Aliou Cissé seront, eux, opposés à la Pologne dans le groupe H, avec peut-être enfin une première victoire africaine dans cette Coupe du Monde. 23h47 à Paris, c'est l'heure de parler de l'équipe de France de football. Les Bleus qui débutaient, eux, leur mondial ce samedi, c'était face à l'Australie. Et un bilan un peu contrasté, car oui, les Bleus ont gagné 2-1, mais tout n'a pas été parfait, loin de là. Bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors Antoine, donc victoire 2-1 pour l'équipe de France face à l'Australie, mais dans un match très très compliqué.
Oui, et pourtant les Français l'avaient commencé exactement comme il fallait ce match. Dès la deuxième minute, Kylian Mbappé lancé en profondeur qui frappe au premier poteau, frappe puissante mais repoussée en corner par le gardien Mathieu Ryan, le gardien australien. On a cru l'équipe de France parfaitement lancée dans cette Coupe du Monde jusqu'à la 17e minute et ce coup franc concédé, un petit peu excentré, et Aaron Moy qui envoie ce ballon, le milieu de terrain, dans la surface de réparation. Et Corentin Tolisso, le milieu de terrain français, qui se rate un petit peu et qui est tout près de marquer contre son camp. Heureusement, Hugo Lloris repousse le ballon. Bref, on a eu un peu chaud du côté de l'équipe de France. D'ailleurs, derrière, on sent que ça a fait un petit peu réfléchir tout le monde. D'ailleurs, la fin de cette première mi-temps a été relativement ennuyeuse. Finalement, tout s'est joué quasiment autour de l'heure de jeu. Avec d'abord ce pénalty accordé à Antoine Griezmann sur une faute de l'arrière-gauche, Rhys Dunn, qui le fauche dans la surface de réparation. Pénalty accordé, logiquement, mais en deux temps, on y reviendra. Antoine Griezmann qui se fait pas prier pour transformer le pénalty. Seulement les Français concèdent à leur tour un pénalty quasi incompréhensible, une main d'Umtiti dans la surface. Jedinak ne rate pas l'occasion de revenir à égalité. Finalement, les Bleus ne s'en sortent que grâce à un but de Paul Pogba, une frappe lobée qui rebondit derrière la ligne de but avant de ressortir, mais qui est validée par la goal line technologie. Victoire 2-1, les Français s'en contentent, mais c'est bien tout ce dont ils peuvent se contenter ce soir.
On a eu du mal à mettre l'intensité dans les passes, le terrain était très sec, et l'équipe d'en face, comme prévu, était regroupée. Ils ont commencé à se découvrir lorsqu'on a marqué le premier but, on a une situation pour mettre le deuxième, on aurait dû tuer le match à ce moment-là. Derrière, voilà, on les laisse en vie, et sur un coup du sort, on prend un pénalty. Après, tout était à refaire. Et avec un peu de réussite, faut l'admettre, on arrive à gagner ce match. Ça nous permet de mettre de la confiance et puis de se projeter sur le prochain match qui sera d'un niveau supérieur certainement. On sait qu'on doit faire plus dans les efforts, dans l'intensité qu'on met dans nos courses, dans nos passes, dans l'énergie qu'on doit mettre sur le terrain. C'était un premier match, on est rentré dans la compétition et c'est la chose la plus importante.
Voilà, c'est la chose la plus importante, nous dit Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Antoine, il y a eu donc beaucoup de déceptions côté français dans ce match.
Et oui, la première déception, je vous le disais, c'est Samuel Umtiti qui réalise une partie plutôt moyenne, le défenseur français. Pourtant, c'est celui qui est censé tenir la baraque. Il en est à 13 titularisations de suite avec l'équipe de France. Et là, il fait cette main dans la surface sur une action qui est quand même apparemment anodine. Alors, il a expliqué après qu'il pensait que le ballon était déjà passé. Mais le mal est fait, Samuel Umtiti, il n'a pas été bon du tout, à l'instar d'un Antoine Griezmann également. Antoine Griezmann qui a été élu homme du match, mais alors on ne sait pas du tout comment, simplement grâce certainement à ce pénalty marqué, parce qu'il a été sorti à la 70e minute par Didier Deschamps, remplacé une sorte de remplacement punition, parce qu'il n'avait pas montré grand-chose. L'animation offensive qui devait tourner autour de lui n'a pas été bonne du tout avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Dembélé qui est l'autre déception, il a beaucoup raté le Barcelonais, il a beaucoup couru dans le vide le long de sa ligne de touche, mais sans trop lever la tête. Alors, une mauvaise performance, ça arrive, et les anciens, comme Blaise Matuidi, le défendent, ils disent « on a besoin des jeunes ».
Les jeunes, ils ont de la qualité, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là, et ils l'ont déjà prouvé, donc pas de problème. Après, on est un groupe, et il faut savoir compter sur tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé pour les rentrants. Voilà, l'arrivée, c'est un groupe, on a gagné, on est 23 à avoir gagné ce match, on est tous contents pour ça. Beaucoup, pour leur part, ont fait leur premier match en Coupe du Monde. C'est bien aussi pour la suite. Maintenant, on est prévenus et je pense que prochain match, on va faire encore mieux.
Voilà, Blaise Matuidi, l'un de ses tauliers de cette équipe de France qui était pourtant remplaçant. Un mot pour terminer, Antoine, c'est cette grande première dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'utilisation de la vidéo.
Et oui, c'était la première fois tout simplement qu'une équipe obtenait un pénalty grâce au recours à l'arbitrage vidéo. Voilà, les Français qui bénéficient de ce pénalty accordé par la vidéo, ils avaient subi un peu la vidéo lors d'un amical contre l'Espagne. Là, ça marche dans leur sens, même si Hugo Lloris a confié quelques réserves en disant que ça casse quand même un petit peu le rythme d'un match et ça peut casser l'intensité d'un match, le fait d'attendre un petit peu. En tout cas, ce soir, les Français sont plutôt satisfaits de la vidéo.
Oui, ils sont satisfaits également de cette victoire. Donc, 2-1, l'essentiel est acquis, Antoine. On vous retrouve jeudi prochain pour le prochain match. Ce sera face au Pérou.
Exactement. Match à Ekaterinbourg, très exactement. Et que je commenterai avec le réfet. Allez, bonjour Valente.
Eh bien, voilà, on attend ça avec impatience. Merci Antoine Grenier et bonne soirée à vous. Bon retour vers Istra, vers le camp de base de l'équipe de France. Sachez aussi que dans l'autre match de ce groupe C, le Danemark donc a dominé le Pérou 1-0. Des Péruviens qui ont pourtant eu beaucoup d'occasions mais qui n'ont pas réussi à les convertir. Ils ont même raté un penalty par l'intermédiaire de Cueva. Donc pour l'instant, l'équipe de France est donc en tête de ce groupe C grâce à une meilleure différence de but que les Danois. Et puis la Coupe du Monde n'a pas commencé pour tout le monde. Demain, c'est au groupe E et au groupe F de faire leur début. Alors le groupe E, tout d'abord, pour enfin voir le Brésil, la Seleção et sa star Neymar qui joueront face à la Suisse. La Seleção qui fait partie des favoris et qui est donc très attendue. Elle jouera donc face à la Nati, sixième nation mondiale au classement FIFA. A priori, le rapport de force est tout de même en faveur des Brésiliens, mais le sélectionneur Tite s'en méfie.
De meio campo com Zacarias mais forte ou que ela tem ela a passagem pela direita com Shaqiri.
Au milieu de terrain, Zakaria est fort. Shaqiri et Chaka jouent de manière très compacte. Nous avons eu des matchs difficiles face à la Suisse et nous allons encore en avoir. Ce sera un match de très haut niveau et le plus compliqué de la phase de poule.
De alto nível. Nous exige também nos desafia au máximo.
Le sélectionneur du Brésil, Tite, avant ce match face à la Suisse. Alors est-ce que c'est la langue de bois? Réponse demain dimanche à 18h temps universel pour savoir si le Brésil s'est bien comporté dans ce premier match de Coupe du Monde. Un peu plus tôt dans la journée, le Costa Rica de Keylor Navas, le gardien de but du Real Madrid, sera lui opposé à la Serbie. Là, et ce sera à partir de midi temps universel. Et puis, il y aura un troisième match dans cette journée de dimanche. Il concerne le groupe F. L'Allemagne sera opposée au Mexique. Les grands débuts des champions du monde en titre face à une équipe qui n'est pas au mieux, qui n'a pas été très convaincante ces derniers temps, ni en préparation ni pendant les éliminatoires, qui a même été au cœur d'un scandale puisque certains joueurs ont été surpris lors d'une orgie en guise de préparation. Voilà, le Mexique qui a eu une préparation un petit peu donc compliquée. Le champion du monde en titre, l'Allemagne, en tout cas est favori, mais Julian Draxler, et ben comme les Brésiliens avec les Suisses, Julian Draxler se méfie lui aussi de cette équipe qui, depuis 1994, a toujours atteint les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde.
Le Mexique est collectivement très fort. Ils peuvent presser très haut et mettre beaucoup de pression sur leurs adversaires. Ils sont toujours dangereux. Je ne veux pas mettre en avant des joueurs en particulier, mais en équipe, collectivement, ils sont vraiment, vraiment dangereux. Mais si nous sommes en mesure d'imposer notre style de jeu et si nous croyons en nos qualités, je crois que nous pouvons gagner le match demain.
Le milieu de terrain allemand du PSG, Julian Draxler, donc avant ce match Allemagne-Mexique, là ce sera à 15h temps universel. Et bien voilà, je crois qu'on a tout dit sur cette Coupe du Monde. Puisqu'il n'y a pas que du foot en ce moment, il y a un tout petit peu de place pour parler d'autre chose, un peu de rugby, puisqu'une autre équipe de France est sur le pont. Le 15 de France de rugby est actuellement en Nouvelle-Zélande pour une série de 3 test matchs pour la traditionnelle tournée de juin qui a lieu dans l'hémisphère sud. Et après une déroute la semaine dernière, les Bleus ont à nouveau perdu ce samedi, une défaite donc 26-13 face aux All Blacks, la meilleure équipe du monde. Alors oui, c'est un nouveau revers, mais les Bleus ont joué à 14 contre 15 après l'exclusion très très rapide de l'arrière Benjamin Fall en début de match. Ils ont plutôt donc rivalisé avec les champions du monde malgré donc cette exclusion. Le trois quarts centre Geoffrey Doumerou se dit même très très fier de l'état d'esprit affiché par ses coéquipiers.
Je pense qu'à chaque fois, tout le monde fait un petit peu un complexe face à eux, alors qu'on se rend compte que quand on joue bien, intelligemment, parce qu'on n'a pas joué n'importe comment, mais on s'est créé beaucoup d'occasions, on a 2 essais refusés, comme je disais. Et je pense qu'on peut remporter ce match ce soir avec un petit brin de chance. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est bien. C'est quand même très bien dans le comportement, comme je dis, dans les ambitions de jeu et le caractère qu'on a montré. Je pense qu'on peut encore s'améliorer et qu'on peut encore plus les embêter. Donc voilà, le troisième match va être intéressant, je pense.
Le trois quarts centre du 15 de France, Geoffrey Doumerou, au micro de Vincent Delzesco. On reviendra d'ailleurs plus longuement sur cette défaite demain dans Mondial Sport. Sachez aussi que le troisième et dernier test match face à la Nouvelle-Zélande, ce sera samedi prochain à Dunedin. À noter 2 autres résultats dans ces rendez-vous internationaux. L'Irlande est allée battre l'Australie de manière assez convaincante, 26-21. L'Afrique du Sud, elle, a dominé l'Angleterre, 23-12. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour ce samedi. On se retrouve demain dans une nouvelle édition. Merci à Hélène Avril qui m'a aidé à préparer cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Mondial Sport. Voilà, vous pouvez y aller, il y aura plein de choses sur cette page. Moi je vous souhaite une très belle soirée sur RFI.
Musique du monde,
Laurence Alloire.
Au programme de l'électro sud-africaine des Townships de Durban, du highlife ghanéen, du rock américain 100% pur jus, Angélique Kidjo qui s'installe à RFI le 21 juin, un gros plan sur la 23e édition des Sud d'Arles, c'est du 9 au 15 juillet, il y a Gilberto Gil, Angélique, Tony Gatliffe. Voilà ce qui vous attend. Content? Pas content? Content.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.